Chers amis, la suite et la fin de notre étude sur l'amour inconditionnel de Jésus-Christ, c'est l'importance de connaître Jésus-Christ comme notre Sauveur. Sans vouloir démesurément allonger cette étude, je dois te faire parcourir une dernière étape très importante pour que tu continues à chercher et à prier quand tu auras fini de m'écouter. Mais rassure-toi, je ne vais pas exagérer pour la bonne raison que cette étape, c'est tout de même toute ta vie et même toute ta vie éternelle. Car la vie éternelle, dit Jésus-Christ à son Père, et ceci avant de mourir, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Évangile de Saint Jean, chapitre 17, verset 3. Je vois ta moue, ta grimace. Connaître, c'est intellectuel. Et le théologien réplique, sauve qui peut. Et tu es prêt à détaler à toutes jambes. Ou bien alors, à l'inverse, tu te frottes les mains en disant, enfin du sérieux. Jusque-là, on a fait du sentiment, me semble-t-il. Place maintenant à la synthèse. Dans le premier cas, cher ami, je te répondrai ceci. Pourquoi refuses-tu d'aimer Dieu de tout ton esprit? Car ton esprit, lui aussi, lui appartient. Et dans le deuxième cas, je te dis, mon pauvre ami, tu vas être bien déçu. Figure-toi que je n'ai jamais réussi à faire le tour complet de Jésus-Christ. Dans tous les cas, fais-moi encore un brin de confiance et tu ne le regretteras pas. Connaître dans la Bible, cela veut dire au sens fort, posséder cette expérience de l'autre qui ne s'acquiert qu'entre époux. Quand Marie veut dire à l'ange Gabriel qu'elle est vierge, elle lui dit en effet, « Je ne connais point d'homme », selon Luc chapitre 1, verset 34. Elle connaît son Joseph, ça c'est vrai, car il est son fiancé, mais elle ne le connaît pas comme un mari. S'il en est ainsi, connaître c'est aimer et c'est être aimé. Aimer quelqu'un en se laissant aimer par lui ou par elle. Or c'est Dieu qui nous aime toujours le premier. C'est donc lui qui nous connaît le premier. On pourrait lui faire dire « Tu ne me connaîtrais pas si je ne t'avais déjà connu ». Heureusement, l'apôtre Paul y a déjà songé, écrivant aux Galates qui ont mal tourné, il leur rappelle leur conversion au Christ encore toute récente et il leur dit « Maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous êtes connus de lui, selon Galates chapitre 4 verset 9, oui, bien des gens aujourd'hui se plaignent d'être mal aimés et de ne pas être reconnus dans la société des hommes et des femmes. Ils ont besoin, pour exister, que le regard de l'autre se pose sur eux, un regard favorable, bien sûr. Certains vont même jusqu'à dire que l'homme n'est homme que s'il est reconnu. Ma joie la plus fantastique, c'est de savoir que je suis connu de Dieu, et par mon nom même, et ceci comme un être absolument unique, pas comme le numéro d'une grande série ou des robots. C'est du reste le psaume 139 qui te dira « Yahvé, tu me sondes et tu me connais ». Cher ami, pense un peu à cela quand tu te mets en prière. Sans le regard du Père sur toi, un regard du reste qui t'inonde et te transperce, oui, un regard qui te veut du bien. Sans lui, tu n'es rien. Baigne-toi donc dans ce regard. Cache-toi dans le secret de la face bénie, comme il est dit dans le psaume, chapitre 31, verset 21. À ton tour, tu pourras alors connaître Dieu dans la Bible. Il gémit d'être souvent ignoré des hommes, voire d'être caricaturé par eux. Il se plaint de ce que ses avances, ses offres, restent sans réponse, parce que l'homme a le cœur ailleurs. Il ose même dire que les animaux domestiques ont plus de flair que les gens, parce qu'ils retrouvent d'instinct le chemin qui les ramène à l'étable chez le maître. Il en vient même à souhaiter un gigantesque raz-de-marée spirituel. Oui, quand le pays sera rempli de la connaissance de Yahvé comme le fond de la mer, et ceci par les eaux qui vont le recouvrir. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 11, verset 9. Donc la réciproque est donc bien vraie. Il n'y a pas d'amitié unilatérale, même si celle qui nous unit à Dieu est dissymétrique. Une autre parole de l'apôtre Paul, très courte, dite en passant, me comble d'aise. L'apôtre parle de la charité qui ne passera jamais, alors que les charismes deviendront inutiles au ciel. Pourquoi cela? Parce que la pleine connaissance rendra caduque le don de connaissance. Ici-bas, nous voyons Dieu comme dans un miroir plus ou moins fidèle, mais un jour, ce sera le face-à-face radieux et béni. Ici-bas, notre savoir est partiel, mais alors, je connaîtrai comme je suis connu, selon 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 12. C'est une affirmation confondante et stupéfiante, car je plongerai sur Dieu le regard qu'il plonge sur moi. Il est bien clair que la connaissance dont il s'agit n'est pas la curiosité intellectuelle. L'apôtre Jean est formel. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Premier épître de Jean, chapitre 4, verset 8. En Sorbonne ou ailleurs, on peut parler de Dieu sans avoir la foi, et ceci à des gens qui n'ont pas eux-mêmes la foi, et y passer des années entières, ce sont alors que des sciences de la religion et rien d'autre. Et étudier Dieu en dehors de la prière, crois-moi, cela détruit souvent un homme, car bien des athées du XIXe siècle ont étudié Dieu. Mais dans quelle attitude et dans quel but? ils ont oublié que Dieu est, restera seul, le seul Dieu pour toujours, pour l'éternité. Il n'y a pas d'autre Dieu. Dieu sait que nul ne peut être un appreneur de Dieu sans être un éprouveur de Dieu. Je vais te redire encore une fois cela, que Dieu et que nul autre ne peut être un appreneur de Dieu sans être un éprouveur de Dieu. Donc, nous retrouverons une fois de plus notre grand introducteur qui est le Saint-Esprit. Car l'Esprit sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu, selon 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Nous sommes donc en effet appelés à sonder l'abîme. Encore faut-il ne pas se tromper d'abîme, car certains s'aventurent dans les profondeurs de Satan par des curiosités malsaines. Connaître Jésus-Christ n'est pas un supplément payant. C'est compris dans la condition du disciple, celui qui suit, qui se familiarise, qui fréquente et qui regarde. Je te l'ai dit, traiter le Christ en Seigneur, en lui donnant tout, c'est le connaître comme Seigneur. C'est faire la vérité, selon Jean, chapitre 3, verset 21. La pratique est donc la principale source de la lumière. La vérité est faite pour être vécue, et la vie est faite pour communiquer la vérité. Mais peut-être me diras-tu, comme certains découragés, je ne suis qu'un besogneux aux mains calleuses. Que Jésus-Christ me demande de le servir, et je m'userai jusqu'aux genoux, et même sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que je fais sa sainte volonté. Seulement, il y a mal donné sur le genre de travail, qui m'est demandé. Jésus-Christ est formel selon l'évangile de Saint Jean, chapitre 15 et verset 15. « Je ne vous appelle pas serviteur, dit-il, mais ami, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle donc ami. Oui, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, eh bien, je vous l'ai fait et je veux vous le faire connaître, pas seulement plus tard, mais déjà maintenant. Ma vocation apostolique comporte essentiellement la tendresse, celle de Jésus-Christ pour moi et celle de moi pour mon Seigneur. Mais il y va aussi de l'honneur de Dieu. Imagine un peu, cher ami, un marxiste regardant un apôtre ou un pasteur se crever carrément pour son Seigneur. C'est sans grande consolation, cela. Et il se dira dans son langage propre, « Dieu est au fait le pire des patrons capitalistes. » Il abstrait de son ouvrier sa force de travail pour en obtenir une plus-value spirituelle qui est sa plus grande gloire. Et quand il l'a bien éreinté en lui imposant des cadences effrayantes, il l'abandonne le soir sur sa couche sans la moindre joie. Non, 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 et non. Absolument pas. le Seigneur ne pratique pas l'abstraction salariale. Il embauche tout homme, toute femme, et pour toujours. Il le prend en charge, il la prend en charge tout entier, sans le ou la renvoyer à une assistante sociale pour ses problèmes, ou à Monsieur Sarkozy, ou à Monsieur Blocher. Mais ce que n'avait pas compris le frère aîné de l'enfant prodigue, il comptait ses prestations envers le père. Voilà tant d'années que je te sers, que je travaille. Et il espérait donc en vain la contrepartie en soirée joyeuse avec ses copains. Et tu ne m'as pas donné même un chevreau pour festoyer avec mes amis. À cette comptabilité-là, qui est de mise à l'usine, mais pas au sein d'une famille, le père répond, « Mais mon enfant, tu es toujours, tous les jours avec moi, et tout ce qui est à moi est bel et bien à toi. » Lis et note Saint-Luc chapitre 15, versets 29 à 32. Essaye un peu de comprendre. Dieu ne compte pas comme nous. Il ne compte même pas du tout. Dans les évangiles, celui de Saint Jean surtout, Jésus-Christ ne cesse de dire aux Juifs, « Vous croyez me connaître, mais vous ne me connaissez pas. Vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais, ni par où je dois passer, ni qui je suis. Tout cela parce que vous ne savez pas me voir en vérité. Sinon, vous auriez compris, car les œuvres que j'accomplis auraient dû vous mettre au moins sur la piste, mais non. Eh bien, tu peux lire chapitres 7 et 8 de Saint Jean. Jésus-Christ fait donc appel à un mystère personnel qui, pour être compris, suppose un certain regard, une certaine écoute. Dans l'une et l'autre image, il est question de relief. Le relief des objets est donné par la vision binoculaire de celui qui regarde. Le relief sonore est donné par l'écoute en stéréophonie. Eh bien, il faut la stéréo pour bien comprendre ce que Jésus-Christ nous dit dans l'Évangile. Avec une seule source sonore, la sienne, l'audition sera un peu plate, mais en ajoutant un autre haut-parleur, celui du témoin caché qui est le Père et le Saint-Esprit, on a alors l'effet trinitaire. Si j'ose dire, cela va changer le tout pour le tout. Jésus-Christ lui-même qui nous met sur la piste quand il nous affirme « Voyez-vous ce que je vous dis, je l'entends dire d'un autre ». Et ce que je fais, je le vois faire à un autre. Note Saint Jean, chapitre 5, verset 19. Donc, en stéréophonie, sachant qu'il venait du Père et qu'il y retournait, Jésus-Christ, au creux de cette courbe parabolique, voulut montrer le maximum de son amour dans un geste de service symbolique de toute sa passion. Il déposa ses vêtements tout comme il allait déposer sa vie. Il lava les pieds des siens, geste réservé à l'esclave, en signe de l'infamie de sa mort. Il reprit ses vêtements comme il allait reprendre sa vie. à nous d'entrer dans ce mouvement par toute notre existence. Ce n'est pas fini. Si Jésus-Christ ne fait rien de lui-même sans le voir faire au Père auparavant, c'est que toute cette scène est d'abord l'œuvre du Père avant d'être la sienne. Ce n'est pas tout. Si le lavement des pieds symbolise la crucifixion, faut-il dire qu'en mourant, Jésus-Christ le voit faire au Père auparavant? Certainement. C'est trop fort cette fois, me diras-tu. Mais pas du tout. Écoute bien, le mot de Jésus-Christ, quand il dit « qui me voit, voit le Père », Saint Jean 14, verset 9. Ce mot ne cesse pas d'être valable au moment de la crucifixion. Bien au contraire, c'est alors qu'il se vérifie au maximum. C'est là que Jésus-Christ est le plus transparent. Bien sûr, le Père ne meurt pas physiquement car il n'a pas de corps. Mais l'amour du Fils en croix nous fait deviner l'amour du Père. La souffrance du Fils s'abandonnant au Père nous suggère la souffrance du Père nous donnant son Fils bien-aimé, alors qu'il lui en coûte beaucoup. Oui, tous les deux communient dans la même générosité à notre égard, chacun à sa façon. Le Père ne se débarrasse pas sur Jésus-Christ d'une affaire embêtante qui demandait une victime. Il participe lui aussi, mystérieusement, à cette immolation. Et il semble s'écrier comme David après la mort d'Absalom. « Ô mon fils, que je ne suis pas moi mort à ta place. » 2 Samuel, chapitre 19, verset 1. Oui, il a dit, souvenez-vous, David, « Ô mon cher fils, que ne suis-je mort, moi, à ta place ?» Eh bien là, crois-moi, tu as de quoi prier. Oui, c'est Jésus-Christ de lui-même qui te montre la route. Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi seulement qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Saint Jean, chapitre 12, verset 44. L'évangéliste nous dit même que ces paroles, Jésus-Christ les a criées et clamées. Elles sont donc importantes comme des choses que nous devons nous mettre dans la tête et surtout dans le cœur. Il y a un problème encore plus grave. Le voici. Au fond, les chrétiens sont parfois encombrés de noms divins qu'ils ne savent pas bien comment accorder, en particulier Dieu et Jésus-Christ. On trouve des gens pour lesquels le mot important, c'est Dieu. Vous pouvez l'appeler Yahvé, Adonai, El Shaddai ou simplement le Père, le Papa. À la Sofresse, près de 80% disent croire à l'existence de Dieu. Je mets « croire » entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas forcément de ce que l'Église appelle la foi, car la plupart du temps, c'est une conviction tout simplement philosophique que on admet au terme d'un certain raisonnement. Dans ce cas, Jésus-Christ n'est qu'un homme génial, mais même si on le croit fils de Dieu, on n'arrive pas bien à l'articuler avec Dieu tout court. Dans certaines régions, les chrétiens disaient « Dieu » pour désigner le Créateur et le « bon Dieu » pour désigner le Christ. Derrière tout cela, il y a une confusion à tirer au clair, bien que je ne me permets pas de juger la foi de personne. D'un autre côté, on trouve des chrétiens qui parlent surtout de Jésus-Christ ou du Seigneur, mot très flou qui le plus souvent désigne le ressuscité, mais qu'on emploie un peu n'importe comment. Mais ils ne voient pas toujours bien comment l'articuler avec Dieu au sens général. Les uns, extrémistes, sont allés jusqu'à crier « Abba Dieu » et « Vive Jésus ». Tu vois l'effet produit sur des musulmans. Certes, Jésus amène un profond changement dans notre conception de Dieu, mais il n'abolit ni le mot ni la question. Il est un chemin et non pas une impasse. Si on le transforme en cul-de-sac, il devient une idole. Il en est qui aujourd'hui reproche aux chrétiens d'avoir amené l'athéisme à force de se braquer sur Jésus tout seul. The Jesus people. Il regrette le paganisme qui avait davantage le sens du sacré. Quelle navrante méprise! Mais pourquoi tel théologien bien intentionné a-t-il été dire que Jésus-Christ était le premier athée? D'autres, fervents de Jésus, Jesus only, n'en font pas une idole, mais ils ne prient plus que par lui, comme s'il était le seul objet de leur vénération. Or, comprends-le bien, Jésus-Christ n'est pas tout Dieu. Il est le Fils, et il n'est pas que Dieu, il est aussi homme. Il est le Fils de Dieu, fait homme, et nous conduisons au Père dans l'Esprit Saint, afin que nous découvrions la nouveauté totale du mot Dieu dans tous les évangiles. Qu'est venu faire Jésus-Christ en son temps? Non pas apporter une autre religion que celle d'Israël, mais l'amener à son achèvement. Il n'a pas dit aux Juifs « Celui que vous appelez Dieu, il n'existe plus, c'est moi qui le remplace désormais. Quittez donc votre religion pour venir dans la mienne. » Il a dit, « Celui que vous appelez Dieu, vous allez, en me regardant mieux, pouvoir mieux le connaître. Je ne vous demande pas de changer de Dieu, pas du tout, et d'en prendre un autre, mais de changer votre manière de voir. Moi, je sais qui il est. Pourquoi? Parce que j'en suis. Parce que, à la place du Fils, j'appartiens à sa vie intime. Désormais, priez le Père d'abord, et peu à peu, vous allez comprendre le reste. Les apôtres n'ont pas renié la foi d'Israël, pas du tout, et Jésus-Christ non plus. Ils en ont quand même sué, croyez-moi, à grosses gouttes. il leur fallait, sans abandonner Yahvé l'Éternel, recomposer son unité d'une façon nouvelle, non plus une unité solitaire, mais une unité trinitaire. Et ça change tout, non? Voilà. Donc quand tu dis Jésus-Christ ou Seigneur, tu sais mieux à qui tu t'adresses. Et n'oublie pas cependant que Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Ne le ramène donc pas à sa vie terrestre, même quand tu médites parfois sur Nazareth ou Bethléem. Il a été, mais il n'y est plus. Il demeure éternellement dans les dispositions d'amour qui étaient les siennes à ce moment-là. Et toi, cher ami, tu dois tirer des événements passés, de ces événements-là, la leçon qu'ils contiennent, mais en les rapportant au Seigneur de gloire. Une prise de position envers lui et une participation à ses sentiments. Chers amis, nous croyons que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie. C'est ce qu'on appelle sa conception virginale. Pourquoi ? Non pas pour, pas seulement, ou pour pouvoir condamner les autres conceptions, peut-être la mienne ou la tienne. Comme si nous croyons ou si nous pourrions croire que nous sommes les seuls à tout savoir. Absolument pas. Vois-tu, Marie n'est pas seulement pure parce qu'elle est demeurée vierge. Elle est pure parce que le péché ne l'a jamais atteinte, parce qu'elle a toujours aimé de toutes ses forces. L'engendrement virginal de Jésus-Christ signifie deux choses précises. Primo, que le Père veut faire du neuf, lancer une race entièrement nouvelle, celle de croyants qui ne proviennent pas d'un vouloir charnel, mais de Dieu, selon Saint Jean chapitre 1, verset 13. Secondo, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu seul, sans l'intervention d'une semence virile. Homme, il naît bien d'une mère, c'est vrai, mais il n'a pas d'autre père que Dieu, selon Luc chapitre 2, verset 49. Il ne dit « Abba » à personne d'autre. Tu trouveras des chrétiens qui comprennent cela, mais cela malheureusement de travers, ou qui n'y croient même pas du tout. Tu en trouveras aussi qui y croient, mais du bout des doigts, en disant que ça n'a au fond aucune importance. Que Jésus aurait bien pu être le fils de Dieu tout en étant le fils de Joseph. Or cela n'est pas vrai, cher ami, et ceci pour deux raisons. D'abord, pourquoi traiter le plan divin par le mépris et en disant que Dieu aurait pu faire autrement? De quel droit reconstituer son dessein en imaginant un autre scénario plus économique? De quel droit banaliser ainsi cette merveille que Dieu a voulu parlante et combien? Le Père te confie un trésor et tu irais dire que c'est un détail. Et puis, est-il bien vrai que cela n'a aucune importance? Je n'en suis pas très certain, car ceux qui disent cela croient vraiment que Dieu nous a donné son propre Fils. Ne croient-ils pas plutôt que Dieu s'est donné un fils en adoptant après coup l'enfant né de Joseph. Où est alors la merveille, s'il ne reste plus qu'une fiction juridique? Acceptons donc la foi telle qu'elle est, sans la reconstituer ou la reconstituer tout simplement à notre façon. Ça, c'est pas honnête. De même, le raisonnement sévit en un autre endroit, qui est la rédemption. Ceux qui y succombent, souvent, du reste, sans s'en apercevoir, disent que l'amour divin n'a rien à voir avec le sang qu'il a versé à la croix. Le sang versé par Jésus-Christ pour eux, mettre un lien entre l'amour et le sang, pour eux, eh bien c'est une barbarie, une totale répugnance. Dieu nous aime, cher ami, du haut de son ciel, sans jamais nous le montrer concrètement. La mort de Jésus-Christ n'aura été qu'une occasion, comme un accident de moto peut avoir conduit l'accidenté à épouser son infirmière par hasard, tout bêtement. Oui, certains diront que Jésus-Christ aurait bien pu mourir de vieillesse dans son lit, sans que l'Évangile en soit perturbé. Il lui aurait suffi de prêcher la fraternité et l'amour entre tous et pour tous, et pas davantage, surtout pas. Ils réduisent la croix à n'être qu'un supplément facultatif et inutile. On dira, comme toujours, passe encore que Jésus-Christ soit ressuscité, mais cela n'entraîne pas la disparition de son cadavre. Même si le tombeau avait été trouvé occupé, cela n'aurait rien changé à la foi. C'est encore le même raisonnement. La résurrection ne peut pas se signifier dans le corps du Christ. Elle concerne seulement son esprit, donc sa liberté. Certes, la foi n'a pas commencé par la découverte du tombeau vide au petit matin de Pâques. Les femmes n'ont rien conclu de tel, mais pas du tout. Mais elles se sont enfuies tout de même, muettes et terrorisées. Lis Marc, chapitre 16, verset 8. Il faudra que le Christ se montre lui-même, se fasse même toucher pour qu'il soit reconnu. Mais les apôtres n'auraient pas cru en sa résurrection s'ils avaient trouvé sa dépouille dans le sépulcre. L'absence du corps, cela veut dire qu'il ne s'agit pas simplement de l'immortalité de l'âme, chose qu'admettaient même les païens. C'est l'être tout entier qui échappe à la mort, et ceci sans laisser de résidus. Dans les classes de physique, tu as entendu parler de l'entropie, de la dégradation de l'énergie. Depuis Pâques, il manque donc un maillon dans la chaîne inexorable qui conduit toute chose à la décomposition. Le tombeau est vide. C'est attesté que cette chaîne est cassée pour toujours. Et voilà donc un très important ou une très importante nouvelle. Bien sûr, vois-tu, le Christ n'a pas repris son corps antérieur, car sinon, il aurait dû mourir une seconde fois, comme c'était le cas pour Lazare. La résurrection n'est pas la réanimation d'un cadavre, mais c'est une résurrection totale. Elle assume la personne tout entière pour la faire exister dans l'éternité, hors de nos limites terrestres. Face à nos timidités rationalistes, elle est le réalisme total de Dieu. Tu vois ainsi à quel point Dieu s'est engagé dans notre monde et quelle dignité il apporte à notre humanité. Jésus-Christ, c'est Dieu qui glorifie le corps de l'homme dans un corps d'homme qui glorifie Dieu. L'unique moyen de comprendre cela est bien entendu de le vivre dans son cœur. Méfie-toi des idéalismes. Ils déshumanisent l'homme, ils le tronquent. Relis ton histoire et tu verras que bien des courants dits spiritualistes ont été des courants immoraux, voire grossiers. Le banquet de Platon, éloge de l'amour, commence par vanter l'homosexualité entre les maîtres et ses disciples. Si le corps n'entre pas dans la zone du sens, on peut en faire ce qu'on veut, et c'est bien commode. Du sublime au sordide, il n'y a qu'un pas. Les nazis, eux, ils torturaient leurs victimes juste après avoir écouté très religieusement du Mozart. Ne te laisse pas prendre au piège. Tu n'es pas un collage d'idées et de brutes. Que veut faire l'ange ou qui veut faire l'ange? Eh bien, il fait la bête, nous dit Pascal. Alors n'oublie jamais, Jésus-Christ est vraiment et vraiment totalement le Fils de Dieu en personne. Le centre de notre récit, c'est évidemment la voix du Père. « Celui-ci, dit-il, est mon Fils. » C'est l'élu, Évangile de Saint-Luc. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, Évangile de Saint-Marc. Celui-ci a toute ma faveur, Évangile de Saint-Matthieu. Et nous voici au cœur du mystère. Le Père lui-même prend les devants pour éviter aux apôtres le scandale de la croix. Il les met en garde contre une épouvantable méprise qui les menace, contre une erreur tragique et navrante à la fois. En présence du crucifié, ils auront spontanément envie de crier « Maudit soit celui qui pend au bois » Galates 3, verset 13. C'est ce hurlement blasphématoire que l'apôtre Paul tentera d'arracher aux chrétiens par la force, acte 26, versets 9 et 11, et ceci jusqu'à ce qu'ils finissent par comprendre son aveuglement, car nul homme, s'il est avec l'Esprit Saint, ne peut dire « maudit soit Jésus » selon 1 Corinthiens 12, verset 3. Alors le Père supplie, n'allez pas vous tromper, n'allez pas dire maudit à celui qui est mon Fils béni, mon Fils bien-aimé. Ne vous mettez pas en contradiction avec la vérité la plus évidente. Ne vous trompez pas aussi grossièrement, c'est dangereux. Personnellement, j'aurais trop peur que ce genre de péché-là ne me soit jamais pardonné. Soudain, regardant autour d'eux, ils ne virent plus personne que Jésus-Christ seul avec eux. les lumières de la fête se sont éteintes. Le ciel a fermé son rideau. Moïse et Élie ont achevé leur prestation. Reste dans la nuit Jésus-Christ seul. Seul parce que toute la révélation se concentre désormais sur lui. Le passé a rempli son rôle. L'avenir n'apportera jamais plus pareille nouveauté. Cela peut te paraître énorme, mais c'est simplement merveilleux. Cela veut dire que le Père a tout dit sans faire de cachotterie, qu'il a tout donné sans faire de réserve. Au risque de Dieu correspond le risque de l'homme. Si tout est désormais livré, il ne faut pas attendre un éventuel supplément. Il ne faut pas manquer le trésor en passant à côté. Ne dis pas dans ton cœur « Qui montera au ciel pour en faire descendre le Christ ?» Ou bien « Qui descendra dans l'abîme pour faire remonter le Christ de chez les morts ?» Romains chapitre 10, versets 6 et 7. Tout cela est déjà fait. La parole est tout près de toi, sur tes lèvres et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons, ajoute saint Paul dans ce passage saisissant. Cela serait navrant de la manquer, navrant de la garder pour soi, tout simplement. Ami, centre bien ta foi et ne dis pas au Christ un oui, mais... Ne papillonne pas dans tous les sens pour ajouter à ce que tu crois des choses curieuses qui dispersent l'attention ou qui sont même franchement incompatibles. Cher ami, chère amie, après, il y a deux choses dans les évangiles de très important. D'abord, la consigne du silence donné par Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il ressuscite. Donc, ni toi ni moi ne sommes concernés par cette prudence. Au contraire, témoignons de toutes nos forces et intelligemment et même courageusement. Et puis, au bas de la montagne, il y a un pauvre homme, souviens-toi, un homme épileptique chez qui le démon fait des siennes. Car le combat n'est pas encore gagné et la paresse n'est pas de mise. Les apôtres testent leurs capacités, peine perdue, car Jésus-Christ, heureusement qu'il survient, et s'enquiert de la situation. Le Père lui explique et il supplie « Si tu peux quelque chose, viens à notre aide. » Phrase que Jésus-Christ rectifie aussitôt. Comment ? Si tu peux ? Mais tout est possible à celui qui croit. Et le pauvre homme de s'écrier « Oh, mais je crois, maître !» Mais viens en aide à mon peu de foi. Saint Marc, chapitre 9, versets 22 à 24. Eh bien, cette confiance lui vaut d'être exaucée. C'est la grogne des apôtres qui, en privé, interrogent sur la raison de leur échec. On les comprend. Et Jésus-Christ, de leur répondre cette espèce de démon, ne se chasse que par la prière. Saint Marc, chapitre 9, verset 29. Cher ami, chère amie, toi qui m'as suivi jusqu'à maintenant, confie-toi entièrement en Jésus-Christ. Sois émerveillé sans être ébloui. Il te faut réaccoutumer ton regard à la faible luminosité quotidienne, sans t'aveugler à tes frères et sœurs et sans tituber. Tu dois donc te demander, avec une autre image, comment brancher ce voltage divin sur tes petits 200 volts, sans tout simplement tout faire sauter, par exemple, et sans détruire l'installation. Au plus fort de la lutte, ne te scandalise jamais. Jamais te scandaliser de la croix, même si elle représente une éclipse de divinité. Dieu ne se cache pas derrière un corps opaque, mais il se montre dans un corps de lumière. Il s'écoule par une fente bénie. Pour prendre une autre image, Jésus-Christ est un livre doré sur tranche or, sur rouge, car le sang versé a déjà des reflets de gloire en lui miroitant des paillettes de lumière. Cher ami, je t'ai aidé à décortiquer une page d'évangile. Continue et tu verras, c'est très passionnant. Mais ne te précipite pas sur la morale, comme à la fin des fables de La Fontaine. Pense à mettre la stéréo, savoure le relief trinitaire et écoute la voix sublime du Père Céleste. Mon cher ami, ma chère amie, voici maintenant ma prière pour toi. Écoute-la d'abord plusieurs fois, avant de la répéter après à haute voix avec moi. Prions maintenant. Jésus-Christ, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Tu es la seule personne à qui je consente cette chose exorbitante, le don de tout moi-même et pour toujours, sans réserve, sans condition et sans limite aucune. Entre les mains d'un autre que toi, ce serait de l'esclavage. Entre tes mains à toi, se perdre, c'est se trouver. Je ne serai jamais autant moi-même qu'en étant à toi tout entier, car tu m'as saisi et je jubile de t'appartenir. Que jamais je ne reprenne ce que j'ai donné, sinon tu cesserais d'être pour moi l'unique. Je sais d'ailleurs que la réciproque est vraie. Tu es à moi comme je suis à toi. Tu ne peux me demander moins que moi, mais tu ne peux me donner moins que moi. Que toi. Jésus-Christ, tu es le seul absolu de ma vie, parce que tu n'es qu'amour et rien d'autre. Chez toi, ce n'est pas un accessoire, un agrément, c'est ton être même. Tu ne risques jamais de me faire défaut, car tu ne peux pas me trahir ni me manquer. Toi qui es mort par amour, tu ne mourras jamais plus, car le Père t'a ressuscité. Tu es la seule tendresse vraiment fiable. Je mise tout sur toi, sans calcul ni précaution, sûr de ta fidélité. Jésus-Christ, tu es le bien-aimé à qui je suis uni le plus étroitement. Tu me pénètres du dedans comme un baume. Tu habites ma liberté sans la détruire. Je te trouve en ma demeure, où que j'aille et quoi que je fasse ou subisse. Jésus-Christ, tu es l'ami qui me connaît le mieux, car tu sondes mon cœur. Tu sais ce qu'il y a en moi d'unique au monde et d'irremplaçable. Oui, tu connais ma vocation véritable beaucoup mieux que moi. Tu la veux plus belle que mes rêves. Tu me prends au sérieux. Et quand je pêche, ton pardon n'est jamais complice, mais exigeant. Tu es le seul à avoir pour moi une ambition folle, la sainteté. Un jour, je te connaîtrai comme je suis connu de toi, et cela m'enchante. Jésus-Christ, tu es la plénitude que je cherche, tu es la lumière totale, et tu es le soleil qui fait pâlir les étoiles. Tu emploies toute ma capacité de recherche, car c'est en toi que je ne cesse de creuser. Toi seul apaise ma soif toute en l'avivant de plus belle. Oui, tu es l'eau qui désaltère sans supprimer le désir. Jésus-Christ, tu es le seul employeur à exiger que ses employés soient ses amis, à exiger que l'embauche soit une consécration, à offrir un travail qui ne finit jamais. Tu es le seul employeur qui me fasse œuvrer dans la pauvreté des moyens. Apôtre aux mains nues, je n'ai ni or ni argent et je m'interdis de séduire. Je ne cherche pas de proportion entre ma fatigue et le résultat visible. Je suis prêt à me dépenser sans espoir de réussite. Je m'abandonne à toi du succès de mon entreprise sans faire une étude de marché. Je me contente de savoir que je fais ta sainte volonté. Jésus-Christ, tu es pour moi le vrai réel, le surréel. Je sais que mes folies sont la sagesse suprême et que ma foi est le plus solide des réalismes. Je tiens tête à ce monde qui m'accuse de planer un peu, car je suis convaincu d'être le plus concret des hommes et, sur ton appel, je peux marcher sur les eaux sans regarder mes pieds, rien qu'en me fiant à ton « oui, viens », car c'est ta voix qui me porte. Jésus-Christ, tu es ma seule espérance. Le ciel, c'est d'être avec toi, sans qu'il me faille chercher d'autres renseignements sur la vie après la vie. Ta demeure est le sein du Père. Vous trois, Père, Fils et Esprit Saint, êtes tellement passionnants que vous êtes capables de béatifier l'homme, la femme, éternellement, c'est-à-dire en l'arrachant au temple. Oui, Jésus-Christ, tu n'es pas pour moi une opinion facultative qu'il serait loisible à l'homme d'accepter sans risque ou de refuser sans dommage. Tu es la bonne nouvelle, tu es le salut du monde, tu es mon Seigneur pour toujours, tu es la réussite totale de toute la création. Oui, malheur à moi si je n'évangélise pas, car cela montrerait que je n'ai absolument rien compris. Amen. Amen. Et, cher ami, cher ami, n'oublie jamais, et c'est une réalité, que Dieu t'aime, et nous t'aimons également, de tout notre cœur. Sois béni, et merci parce que tu as eu la patience de t'intéresser, d'écouter toute cette série merveilleuse. Et j'espère que tu écouteras les autres séries qui viennent tout de suite. Et bientôt, à nouveau, mes très chers amis. Au revoir.